Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
C'est le temps des lectures en vue de la prédication, lecture dans l'infaillible parole de Dieu. Et nous aurons trois lectures dans le Nouveau Testament. D'abord dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 12 à 15. Jean, chapitre 16, les versets 12 à 15. C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ensuite, dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Timothée 3, verset 14. Nous lirons jusqu'au verset 4 du chapitre suivant. 2 Timothée 3, 14. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et puis, tout à la fin de la Bible, dernier chapitre du dernier livre, quasi les derniers versets, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Tout à la fin, Apocalypse 22, 18 et 19. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre.
Pour commencer aujourd'hui, bonjour. Que Dieu vous bénisse chacun. Et nous allons commencer en lisant un article sur la Bible, la parole de Dieu, de la confession de foi de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Certains la connaissent déjà, d'autres vont l'entendre. Voici ce qu'il est écrit. Sa formation et son inspiration. Dieu opère tout selon le conseil de sa volonté. Dans le passé, au long de l'histoire, il a choisi des hommes qui, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de sa part. Mises par écrit, ces paroles mêmes de Dieu ont progressivement constitué la Bible entière, le canon complet, conformément au plan divin. Son autorité. Ainsi, pour la Bible, inspirée de Dieu dans chacun de ses mots, c'est trop peu d'affirmer qu'elle contient la parole de Dieu, mais il faut confesser qu'elle est cette parole. Elle a été miraculeusement préservée de génération en génération, et nous sommes tenus de lui reconnaître aujourd'hui encore entière autorité et pleine suffisance. Infaillible et sans erreur, la parole de Dieu constitue notre unique règle de foi et notre seule norme de conduite. L'instrument de son action, et là vous allez comprendre pourquoi on lit ça au début de la prédication, puisque j'ai une habitude que certains connaissent. Pour conclure ce point, nous affirmons encore la nécessité de l'instruction du Saint-Esprit dans l'Église pour que nous comprenions le tout des Saintes Écritures selon la vérité. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit, vous et moi. Et nous entrons après-demain, je crois que c'est après-demain, le 1er octobre, c'est possible ça ? Oui, c'est ça. Après-demain, nous entrons dans le mois qui va marquer les 20 ans de l'Église locale. Donc on va entrer dans la 21e année, en fait, dans le mois suivant. Hein. Et parce que ce fut en octobre 2004 que l'Église, dans laquelle nous sommes ici ce matin, a été constituée. 20 ans de fidélité de Dieu qui nous a encouragés, bénis, exhortés, guidés, repris et aimés et qui continue à le faire. Or, lors des 10 ans de l'Église, alors 2004 plus 10, c'est en 2014, hein, en 2014, nous avions eu une petite série de prédications intitulées, vous vous souvenez ? Alors, sur l'Église, bien joué, et le titre c'était « L'Église de Dieu, l'Évangile rendu visible ». Peut-être que vous vous souvenez qu'on nous a parlé de l'Église que Jésus aime, l'Église que Jésus construit, l'Église de Jésus l'adore, l'Église de Dieu est centrée sur sa parole, l'Église, le corps de Christ, l'Église lumière de Christ dans le monde. Et nous avions même vu le mandat multitâche 3D de l'Église. C'était les titres des 7 prédications que vous pouvez retrouver sur le site www.rbn.ch. Vous pouvez les réécouter pour revenir sur ces enseignements. En 2022, par les versets bibliques de la semaine, nous avons parcouru les métaphores de l'Église qui sont présentées dans la Bible. Alors, peut-être que vous vous souvenez des métaphores de l'Église. L'Église est représentée par une épouse, une vigne, une famille, un édifice, une colonne, un corps, un temple, un troupeau, un peuple, une ambassade qui répand le sel, la lumière, le témoignage, est une lettre, une odeur, une semence, un pont, des artisans de paix, des ouvriers. Toutes ces métaphores qui nous ont fait penser à l'Église et à son rôle. En 2023, nous avons mis dans nos cœurs des passages de la Bible en lien avec le thème « Les uns les autres ». Ça ne fait pas si longtemps, ça, 2023. Hein. Donc on a peut-être encore un petit peu en tête, qui nous parle de l'amour, la paix, l'unité, le soutien, le pardon, la soumission, l'humilité, la protection, l'exhortation, l'hospitalité, la confession, la communion, la consolation les uns avec les autres. Et même Romains 12, de 9 à 21, qui développe ce que signifie s'aimer les uns les autres. Mais ce n'est pas fini, parce que de plus, depuis 2020, Olivier Favre, pasteur fondateur de l'Église et prédicateur invité, est dans une série en cours, qui n'est pas encore terminée, sur l'Église. Et peut-être que vous vous souvenez, moi c'est en 2020, donc ça date un petit peu, mais il a parlé de l'Église qui est un temple de Dieu. Il a repris aussi l'épouse de Christ, le corps de Christ, un laboratoire en croissance en sainteté. La colonne et le soutien de la vérité, un peuple d'adorateurs, parlant aussi des éléments du culte et du chant il y a 2 semaines. D'ailleurs, peut-être que vous avez remarqué que Roland ce matin a fait une allusion à ce qui s'était dit il y a 2 semaines. Et il y aura encore 3 autres prédications. Un deuxième sur le chant et ensuite sur le mandat de l'Église et son attente. Donc les enseignements sur l'Église basés sur la parole de Dieu sont bien présents ici, dans notre Église locale. Et je me demandais, mais que faire alors pour ces 20 ans de l'ERBN ? Donc je suis alors revenu sur la question, une question de base qui s'est posée en fait lors de la constitution de l'Église. Et que je me suis d'ailleurs aussi posé lorsque j'ai été installé comme pasteur ici. Pourquoi cette Église existe-t-elle ? Pourquoi, il y a 30 ans, des études bibliques ont commencé dans la région et qu'une église a été constituée il y a 20 ans, alors qu'il y avait déjà d'autres églises réformées et évangéliques ici autour ? D'ailleurs, ces quelques années, j'ai visité 35 églises évangéliques dans le canton de Neuchâtel. Donc il y en a. Pourquoi ne nous sommes pas tous allés dans une église existante, en fait ? Eh bien, c'est parce que nous avons une identité théologique qui n'existait pas dans le canton de Neuchâtel. Attention, c'est important. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous sommes en chemin, conscients de notre faiblesse, les regards tournés vers Christ, pour grandir comme la plupart des chrétiens dans ce canton. Mais le nom de l'Église, Église réformée baptiste, définit bien notre identité théologique. Nous sommes un peu à la croisée des réformés fidèles à la parole de Dieu et des évangéliques fidèles à la parole de Dieu. Ça, c'est réformé baptiste. Réformé parce qu'on a un attachement tout particulier au salut par grâce du Dieu souverain qui a fondé et garde son Église. Et la vue globale, d'ailleurs, de la gloire de Dieu dans nos vies, qui a été remis en valeur lors de la réforme. Et baptiste, parce que nous croyons au credo baptême. Et nous sommes reconnaissants aussi à l'héritage évangélique des réveils qui nous poussent à annoncer l'Évangile. Alors, pour les 20 ans de l'Église, une idée a germé de faire une série de 7 prédications, comme il y a 10 ans, donc 7 prédications, mais sur l'identité théologique. Le titre de cette prédication, de cette série, en fait, sera « En Christ, humblement réformé baptiste ». En Christ, parce que ce n'est pas l'identité réformée baptiste qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. Non, que nous sommes élus par le Père, rachetés par le Fils, sanctifiés par l'Esprit. C'est notre identité en Christ. C'est notre base, la base de notre appartenance au corps qui est l'Église. Et cette Église universelle de tous les temps est manifestée visiblement par l'Église locale dans laquelle nous sommes membres. Donc c'est notre identité en Christ, qui est la base de notre appartenance à son corps, qui est l'Église. Et cette Église universelle de tous les temps est manifestée visiblement par l'Église locale dans laquelle nous sommes membres. Et ce point est vraiment important à bien saisir. C'est en Christ que nous sommes les brebis du troupeau, pas en étant réformés baptistes. Être réformé baptiste, c'est avoir certaines spécificités, une identité familiale locale. On pourrait un peu prendre l'exemple, comme les 12 tribus d'Israël faisaient partie du même peuple, mais chaque tribu avait ses caractéristiques propres. Et les réformés baptistes sont une partie de l'Église de Christ. Prétendre que celui qui n'est pas réformé baptiste n'est pas de l'Église de Christ est faux. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais celui qui n'est pas en Christ ne fait pas partie du corps de Christ. Alors pourquoi j'ai choisi de mettre encore ce terme humblement réformé baptiste ? Parce que notre fierté, c'est d'être à Christ. C'est ça notre fierté, notre gloire, c'est d'être à Christ. Et nos spécificités théologiques, qui nous sont à cœur et sont importantes parce qu'elles sont réfléchies et appuyées sur la parole de Dieu, nous désirons les vivre avec humilité, conscients de nos limites. Avec douceur aussi pour des avis qui peuvent différer avec des frères et sœurs en Christ, même si on part des convictions fortes. Conscient d'ailleurs que l'habitude de pécher dans nos vies est encore tellement tenace que tout ce que nous faisons et disons est souvent touché encore par le péché, pour ne pas dire presque toujours. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ma prière, c'est que Dieu nous rende et nous garde humbles, tout en restant enracinés dans sa parole. Et nous croyons que Dieu est souverain aussi sur les discussions théologiques. Souvent, on a une théologie. Dieu est souverain. Oui, super, il est souverain. Mais il est aussi souverain dans nos discussions théologiques. Nous voulons donc être fondés, convaincus et courtois et paisibles. C'est dans la main de Dieu. Et d'autres églises ont les mêmes convictions sur divers sujets et qui sont liées à notre identité locale. Donc on n'est pas les seuls à croire ces choses. Mais la chose qui est particulière, c'est qu'à notre connaissance, nous sommes les seuls à voir tous les sujets qu'on va voir ensemble. D'autres ont les mêmes croyances pour certains sujets, d'autres églises pour d'autres sujets, mais tous les sujets qu'on va voir, eh bien, je ne connais pas d'autres églises dans le canton de Neuchâtel qui ont tous ces sujets ensemble. Ce sera donc l'objet de nos 7 prédications, de la série qu'on va commencer aujourd'hui. Encore une petite précision importante, c'est que le but, ce n'est pas de développer chaque sujet de manière exhaustive, ce n'est pas possible en prédication. Le but, ce n'est pas non plus de faire un cours de théologie, on est en prédication justement. On va donc plutôt survoler ces sujets en cherchant premièrement à faire le lien avec notre identité en Christ, puisque c'est l'élément fondamental de notre appartenance à l'Église. Et cette première prédication de cette série a pour titre « En Christ, basé sur sa parole ». Basé sur sa parole. Et nous aurons donc 4 étapes. La première, on verra le lien entre notre identité en Christ et sa parole. C'est un élément fort. Ensuite, deuxièmement, la parole de Dieu est sans cesse. Vous avez rien compris parce que je me suis fait un croche-pied avec la langue. La parole de Dieu est sans erreur et préservée. On parlera de l'inhérence de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre autorité et la parole de Dieu est complète. Je vais encore développer ces choses. Mais voilà un peu les étapes qu'on va voir ensemble. Alors pour les autres prédications, puisqu'il y a toute une série, il y en a 7, j'ai choisi de ne pas vous donner maintenant tout le programme parce que ça prend du temps. Et je me suis dit, on va se concentrer sur cette première aujourd'hui. Si vous avez pris le petit document qui est à l'entrée, là vous avez tout le menu qui vous est donné de toutes les 7. Donc aujourd'hui, on se concentre sur « En Christ, basé sur sa parole ». Et j'aimerais qu'on commence par lire un texte. On a déjà lu donc, le texte de 1 Timothée, sera notre base. Après, vous le verrez. Mais j'aimerais qu'on vienne dans Éphésiens maintenant, ensemble. Donc vous pouvez prendre vos Bibles dans Éphésiens, au chapitre 1. Pour lire un texte qui nous parle de cette notion d'être en Christ. On avait fait une étude sur Éphésiens, on avait vraiment vu cette emphase que l'apôtre Paul met ici dans ce texte, qu'il envoie à ceux qui sont à Éphèse. Éphésiens 1, on va lire donc un texte ici de verset 3, on va aller jusqu'au verset 14, pour s'imbiber de la parole. Je ne vais pas faire un grand commentaire, mais on va vraiment s'imbiber de cette parole. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Acte 20, 28, peut-être vous l'avez en tête, hein, il a dit « L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Ce que Dieu s'est acquis, c'est l'Église. Acte 20, 28 nous fait le lien ici avec ce texte. Et Éphésiens est une épître qui souligne cette notion de cet « en Christ ». Et le baptême est le symbole d'entrée dans la nouvelle alliance qui indique que celui qui est en Christ est mort en lui-même et rendu vivant en Christ. C'est Romains 6 qui l'explique. Il est donc important et utile de comprendre quel était le lien entre Jésus-Christ et la parole de Dieu, puisque nous disons que nous sommes en Christ, c'est l'élément fondamental. Donc un élément déjà, c'est que Jésus n'a jamais donné une seule impression qu'il mettait en doute la parole de Dieu. Vous pouvez lire tous les évangiles, il n'a jamais donné l'impression qu'il mettait en doute la parole de Dieu. Alors composé des livres de l'Ancien Testament, d'ailleurs c'était pour lui le fondement pour faire face au menteur par excellence, le diable. Lors des tentations dans le désert, qui nous sont rappelées dans Matthieu 4 ou dans Luc 4, Jésus répond en disant « Il est écrit ». Il est écrit. La parole de Dieu est sa référence et son autorité cohérente. Parce que lorsque même Satan cite la parole de Dieu pour le tenter, Jésus répond avec une autre parole qui permet de comprendre que la manière d'utiliser la parole de Satan est fautive. Jésus pose là alors un fondement que nous aimons aussi dans le cadre de notre Église. Dieu nous aide et que Dieu nous aide à vivre toujours mieux, c'est la doctrine de l'analogie de la foi. L'analogie de la foi, c'est simplement que la Bible s'explique par elle-même, en fait. Un texte plus difficile sera éclairé par un texte plus clair. La Bible est cohérente et ne se contredit jamais, comme son auteur ultime, Dieu lui-même. Ensuite, Jésus va aussi mettre la parole de Dieu en opposition aux traditions. On voit ça dans le Nouveau Testament. Jésus va mettre en opposition la parole de Dieu aux traditions, soulignant que c'est toujours la Bible qui a raison. Toujours. Toujours la Bible qui a raison. Ce n'est pas les constructions humaines, même s'ils ont commencé avec des éléments bibliques. Vous pourrez trouver ça dans Matthieu 15 ou dans Marc 7, quand Jésus reprend les pharisiens qui prennent l'argent qui devrait être donné aux veuves, etc. Ensuite, Jésus croit clairement que tout ce qui a été annoncé dans la parole de Dieu va se réaliser. Pour lui, c'est clair. Tout ce qui est annoncé va se réaliser. Un exemple, lorsque Judas va le livrer, Jésus dit que son départ arrivera selon ce qui était écrit dans Matthieu 26 ou dans Marc 14. Jésus croit que ce qui a été écrit va se réaliser. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, pour prendre une illustration, si une voiture est conduite par une personne qui veut aller à Berne, où ira la voiture ? Est-ce que la voiture, en fait, peut choisir où elle veut aller ? Pas encore, vous me direz. Mais c'est le conducteur qui choisit d'aller à Berne et qui la conduit à Berne. La vie de la voiture ne changera rien du tout. C'est le pilote qui décide. De même, si c'est Jésus le pilote de notre vie, c'est lui qui nous conduira là où lui l'a décidé. Ou alors, ce n'est pas lui qui est au volant. Jésus aime la parole de Dieu. Ça, c'est la direction de Jésus. Il lui fait confiance. Il s'y soumet jusqu'au moindre détail. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, mais quand il était sur la croix, il a dit à un moment donné, « J'ai soif ». Vous savez pourquoi il a dit ça ? C'est Jean 19, 28 qui nous le dit. C'est pour accomplir les Écritures. Jusqu'au moindre détail, jusqu'au fait de dire « J'ai soif », Jésus l'a accompli. Alors s'il pilote notre vie, nous allons aussi faire confiance à la parole de Dieu qui sera notre autorité. Et nous n'allons pas la modifier ou chercher à vivre différemment que ce que la Bible nous dit. Non, on va chercher à l'intégrer, à la connaître. On va la passer dans notre cœur pour l'intégrer et la vivre. Et la vivre comme Jésus la vit. Et qu'il soit le pilote de notre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle être en Christ. Être en Christ, c'est en fait Christ en nous qui se manifeste. Jésus, c'est vrai, ne nous a rien laissé par écrit de sa propre main. Cette tâche, il l'a annoncée, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, qui a utilisé les prophètes pour écrire l'Ancien Testament et utilisera les apôtres pour le Nouveau Testament qui nous est parvenu. Hein, on a lu le texte tout à l'heure dans Jean 16. Jésus a dit dans Jean 16, 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je vous dis qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc comme nous sommes en Christ, nous désirons que Christ habite en nous et que nos vies soient modelées par le Christ. Et donc que nous aimions ce qu'il aime, que nous désirions ce qu'il désire. Nous allons donc étudier sa parole. Et le Saint-Esprit a pris ce qui était à Christ et nous l'a annoncé. Et ce sera maintenant ce texte de 2 Timothée 3,14 qui va nous faire avancer dans différents autres domaines en lien avec ce sujet-là. Donc 2 Timothée, je vous invite à prendre ce texte, on va prendre un peu de temps maintenant pour s'y arrêter. 2 Timothée 3,14 à 4,4 qui va nous accompagner. Hein, il y a trois parties qu'on va voir dans ce texte. La première, c'est les versets 14 à 17, qui est « La parole de Dieu est sans erreur et préservée, comme le croyait Jésus ». Et si vous voulez un terme théologique, il est question ici, entre autres, d'inhérence biblique, c'est-à-dire que la Bible est sans erreur. Ensuite, du verset 1 et 2 du chapitre 4, nous verrons que la parole de Dieu est notre autorité, comme elle l'a été pour Jésus. Et au chapitre 4, versets 3 et 4, la parole de Dieu est complète, comme le ministère de Jésus est complet. Ici, si vous voulez un autre terme théologique, nous parlerons aussi du cessationnisme, qui parle des dons surnaturels, personnels, d'attestation, qui est terminé. On en parlera quelques instants tout à l'heure. Mais reprenons donc 2 Timothée 3, 14 à 17. Je relis le texte. « Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. » Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Ce que Timothée ici a appris depuis son enfance, les écrits sacrés, existaient déjà avant son enfance, dans l'enfance de ses parents. Et ils existaient même déjà avant, dans l'enfance de ses grands-parents. Ils existaient même encore avant. En fait, ces écrits n'ont pas changé depuis ce temps-là jusqu'à Timothée. Et vous savez quoi ? Ces écrits n'ont pas changé depuis Timothée, 50 générations plus tard jusqu'à nous. Ils n'ont pas changé. Dieu a préservé sa parole. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la préservation. Et c'est ce que nous croyons en tant que réformés baptistes, comme d'autres le croient aussi. Le verset 15 nous indique ce qui a toujours été annoncé et qui le sera toujours. Les écrits sacrés peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. C'était vrai il y a 2000 ans, c'était vrai il y a 1000 ans, c'était vrai il y a 10 ans, ça sera vrai dans 500 ans, ça sera vrai dans 2000 ans. C'est toujours vrai. Tu veux connaître comment être délivré du poids énorme qui pèse sur ta conscience ? Sache que c'est Dieu qui te fait connaître ton péché et c'est lui qui te fait connaître le moyen d'en être libéré, purifié, lavé, allégé. Hein, tout l'Ancien Testament annonçait la venue de Jésus-Christ, le Messie. Christ, le Messie, ouin, c'est le même mot. Hein. Et tout le Nouveau Testament exprime ou explique sa venue et le sens de sa venue. Et le verset 16, toujours de 2 Timothée 3, indique ici quelque chose d'important. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas été là tous vendredi pour la conférence ici, parce que Stanislas m'a préparé la prédication, en fait, hein, vendredi. Donc, nous avons une conférence sur le canon du Nouveau Testament, qui faisait suite à la conférence du canon de l'Ancien Testament. Le canon, c'est l'ensemble des livres considérés comme étant la parole de Dieu. Et dans cette conférence, on a pu comprendre que lorsque Paul parle des Écritures, il s'agit de l'Ancien Testament, graphé, si on reprend le terme. Et en lisant d'autres textes, ce qu'on a fait aussi ensemble vendredi, nous comprenons que le Nouveau Testament est aussi considéré comme Écriture. Donc ce texte ici nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et ça concerne toute la parole de Dieu. Donc Dieu a inspiré toute écriture, ce qui signifie qu'elles sont le contenu de ce que Dieu a voulu transmettre. Elles sont sans erreur, elles sont infaillibles, parce que Dieu est parfait. Ok ? C'est inspiré, alors vous pouvez prendre aussi un terme, c'est théopneusté, c'est soufflé, si vous voulez, c'est le terme qu'il a utilisé, qui est très fort. Toute écriture, ce qui signifie qu'elles sont le contenu de ce que Dieu a voulu transmettre, elles sont sans erreur, sont infaillibles, car Dieu est parfait. La Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On l'a entendu dans la confession de foi de l'Église que nous avons. Vous savez, une chaîne, vous avez déjà vu une chaîne avec des maillons, hein, une chaîne en fer, puis vous avez des petits maillons qui se tiennent comme ça, hein. En fait, pour avoir des maillons très très résistants, même avec un gros diamètre ou une matière coupe, mais incassable, des maillons impossibles à détacher. Mais si un maillon au milieu est faible et cassable, ou peut-être même que c'est fait en papier, toute la chaîne devient inutile. Elle est inutile. Si on a besoin de la chaîne dans son ensemble, hein, pour se rattacher d'un endroit à l'autre, on pourrait dire de notre situation d'humain à Dieu, s'il y a un maillon qui est faible ou qui ne tient pas, la chaîne est inutile. Et il en est de même de la parole de Dieu. S'il y avait une seule erreur, une seule doctrine qui n'est pas valable ou solide, toute la chaîne qui nous relie à Dieu deviendrait inutile. Elle est soit sans erreur, et donc parfaite, reflétant Dieu, ou soit inutile. Pour Jésus, il ne faisait aucun doute. La Bible était fiable, sans erreur, et elle était préservée. Si nous vivons en Christ, nous aurons les mêmes réflexes que Christ. Si nous arrivons sur un texte où nous avons l'impression que la Bible se trompe, qu'elle contient des erreurs, eh bien, c'est le moment de remettre en question sa manière de voir la Bible et pas la Bible elle-même. C'est le moment de voir que nous sommes en Christ et que Jésus, lui, n'a jamais mis en doute la parole de Dieu. Et s'il vit en nous, on arrivera à la même conclusion et nous chercherons à trouver pourquoi, en fait, nous voyons cela. Nous allons réfléchir, nous allons chercher, étudier pour saisir ce que Dieu veut nous faire comprendre parce que nous avons vu qu'il nous semble étonnant. Généralement, quand Dieu nous montre quelque chose d'étonnant, c'est qu'il veut nous parler. Donc ça vaut la peine de prendre le temps de l'écouter. Si la parole de Dieu est fiable et préservée, elle doit donc être écoutée. C'est notre référence, notre autorité. Ça, c'est le point suivant. La parole de Dieu est notre autorité. 1 Timothée 4, 1 et 2, je vais prendre juste ces deux versets ici, on peut les relire. « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Qu'est-ce que Timothée doit prêcher ? La parole. Prêche la parole. Voilà ce que le Saint-Esprit dit par Paul à Timothée. La parole, c'est l'autorité. C'est pas prêche tes idées, prêche des petites histoires. Non, c'est prêche la parole. C'est l'autorité. C'est l'autorité, et puis si vous voyez les trois éléments qu'il va faire avec cette parole, ben on verra que ça souligne l'autorité. En fait, pour convaincre. Si tu ne sais pas si c'est important de rester fidèle à ton église locale, par exemple, est-ce que c'est vraiment important de rester fidèle à mon église locale? Eh bien, tu vas lire Hébreux 10, 25. C'est la parole où il est dit « N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Et sois convaincu de t'attacher à l'église locale où tu es membre. C'est la parole. Convaincre. Ou bien la parole est utile pour reprendre. Par exemple, un frère en Christ ne paye pas ce qu'il doit quand il prend les transports publics. La parole reprend lorsqu'il dit qu'il ne faut pas dérober ou que tout travail mérite salaire. Dans Exode 20 ou bien dans Jacques 5, que tout travail mérite salaire. Il est repris, appelé à se repentir. Et se repentir, c'est pas juste dire « excuse-moi » puis c'est fini. C'est « il regrette sa faute, cherche à le réparer pour ce qui est possible, cherche un moyen de ne plus le faire et demande pardon. » Convaincre, reprendre, la parole de Dieu aussi utile pour exhorter. Donc avertir, grandir dans la compréhension de ce que nous vivons, les directions à prendre, les chemins à éviter. Enfin, tout ça, c'est de l'exhortation. Quelque chose qui doit convaincre, reprendre, exhorter, en fait, c'est ce qui fait autorité. C'est la référence et c'est la parole de Dieu. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait autorité dans ma vie? Est-ce que c'est Google à qui je vais demander qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien de prendre ce bonbon, enfin, etc. Je ne dis pas qu'on peut pas utiliser Google, mais est-ce que c'est ma référence? Est-ce que ça va plus loin que ça? Est-ce que l'on vit notre vie à notre guise ou est-ce qu'elle est en Christ? Si on dit être en Christ, l'autorité de notre vie sera celle de Jésus-Christ. Et attention, on l'a vu hier avec les jeunes, à la journée jeunesse, ce n'est pas en cherchant à imiter Jésus par nos forces qu'on deviendra comme lui, c'est en le laissant vivre en nous. Vous voyez la différence? C'est pas « je mets toutes mes forces pour essayer de faire comme Jésus-Christ », c'est plutôt « il vit en moi et ainsi je vais suivre et imiter Jésus-Christ ». Avoir la même autorité que lui, la parole de Dieu. Allons voir la dernière partie de notre texte du jour dans 2 Timothée 4. En nous rendant compte que la parole de Dieu est complète, qu'il n'y a rien à ajouter, même si nous aimerions que certaines paroles soient plus proches de nos désirs, ou même rien à enlever, même si nous aimerions détourner nos oreilles de certaines vérités. Allez, relisons 2 Timothée 4, 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. On a d'ailleurs lu un texte dans l'Apocalypse juste précédemment, c'était aussi pour nous préparer à cette notion. Il a dit clairement qu'il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Je vous le relis là. Je l'atteste dans Apocalypse 22, 18. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche la parole du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors là, de nouveau, on a pu constater lors de la dernière conférence vendredi que même si ce texte est lié au livre de l'Apocalypse, c'est vrai, c'est en lien avec le livre d'Apocalypse, mais c'est aussi le dernier livre du Nouveau Testament et probablement être le dernier apôtre encore en vie. Et quand il écrit cela, c'est quelque chose qui est définitif pour toute la parole de Dieu. Le canon est complet. La saine doctrine n'a pas de lacune. Elle est entièrement disponible. Et non seulement nous voulons la supporter dans l'église locale où Dieu nous met en place, mais nous voulons la désirer et rien n'y enlever ni y ajouter. Le texte de 2 Timothée indique au verset 3 que les ajouts viennent de propre désir, de maître proclamé, mais pas bibliquement fondé. Et le verset 4 indique que ce qui est enlevé est en lien avec le fait de se détourner de la vérité. Dire « Ah, je ne suis plus d'accord !» et se tourner vers des fables et des histoires imaginaires. Par exemple, je ressens que je suis une femme, alors que manifestement, j'ai été créé homme, mes chromosomes ne mentent jamais. Ce ressenti est une fable, et comme la fable est plus tentante que la vérité, des gens ordonnés par Dieu, quels que soient les sentiments dérangés que nous pouvons avoir, et liés à la chute, alors on enlève les textes de la Bible qui nous dérangent dans ce domaine. Une application de ce qui se passe ici. Mais la Bible est complète, et rien ne doit y être ajouté, rien ne doit y être enlevé. La Bible est complète, rien ne doit y être ajouté, rien ne doit y être enlevé. Si la Bible est complète, alors le rôle de fondement de la foi de la Nouvelle Alliance qui était vécue par les apôtres, extension du Christ, ont disparu. Il n'y a plus d'apôtre actuellement légitime pour écrire la suite de la parole de Dieu. Elle est complète. D'ailleurs, personne, on a parlé des apôtres aussi vendredi, personne n'a vécu avec Jésus depuis son baptême jusqu'à sa mort maintenant, qui est vivant. Et comme la Bible est complète, il n'y a plus besoin du rôle fondateur comme au temps juste après l'ascension de Jésus qui a ainsi quitté physiquement ses disciples. D'autre part, si la Bible est complète, il n'y a plus de place pour ceux que j'aime appeler la bouche de Dieu, c'est-à-dire qui sont appelés prophètes dans la Bible. Car s'il y avait encore des prophètes dans la Bible, eh bien il faudrait ajouter ce qu'ils disent à la fin de notre Bible. Ne me comprenez pas mal, nous pouvons nous exhorter, nous pouvons nous encourager, basé sur la parole de Dieu, mais nous n'appelons pas cela prophétie. Dieu avait donné des dons miraculeux, particuliers à ses apôtres. Nous voyons d'ailleurs qu'à la fin de leur vie, il n'est plus vraiment question de ces dons miraculeux, si vous étudiez un petit peu le Nouveau Testament. Ces dons miraculeux personnels étaient donnés pour attester ses transmetteurs de la parole de Dieu au monde. J'ai dit que je ne pouvais pas faire de grand développement ici, mais on comprend la notion de base. Donc l'apostolat, la prophétie et le don de guérison personnelle et les langues, qui étaient pour la parole dans le monde, eh bien, ça s'est terminé. Puisque la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit est complètement écrite, n'a plus besoin d'une nouvelle attestation. C'est déjà attesté. D'ailleurs, nous croyons que 1 Corinthiens 13 parle de la parole de Dieu complète en disant que ce qui est parfait sera venu. Parce qu'en fait, si vous continuez dans le texte, il est dit que la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Parce que d'autres disent que ce qui est parfait, c'est quand Jésus revient et qu'on sera au ciel. Oui, mais là, la foi et l'espérance n'existeront plus. puisque nous vivrons dans ces choses-là. Il n'y a plus besoin d'espérer, nous, ça sera la réalisation de l'espérance. Et il n'y a plus besoin d'avoir la foi pour quelque chose que l'on voit. Nous y serons. Hein, dans 1 Corinthiens 13, 8, je vous lis juste ces trois versets qui nous permettent de comprendre. Hein, l'amour ne succombe jamais. L'amour sera toujours là, c'est vrai. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et c'est aussi des réalisations de deux prophéties de l'Ancien Testament. Il faut bien comprendre une chose ici, dans ce que je viens de vous dire. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le cessationnisme. Et c'est ce que l'on croit à l'Église réformée baptiste. Il faut bien comprendre que lorsque nous disons qu'il n'y a plus d'apôtres, qu'il n'y a plus de prophètes, que les dons miraculeux des langues pour communiquer la parole de Dieu au monde entier, et qu'il n'y a plus de dons miraculeux personnels, nous ne disons pas que Dieu ne fait plus de miracles, ou qu'il n'envoie plus personne. Non, Dieu fait encore des miracles. Mais ce n'est plus un don personnel donné à quelqu'un pour attester la parole normative qui a été donnée par Dieu. Ça, c'est terminé. Le canon est complet. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Et on pourrait dire que Jean, à la fin de l'Apocalypse, dit, tout est écrit. Vous savez, lorsqu'un puzzle est complet, vous avez déjà vu un puzzle avec toutes les pièces ? Il est complet. On n'y ajoute plus de pièces. De même, la parole de Dieu est complète. Il n'y a plus de pièces de puzzle à ajouter. Il n'y a donc plus besoin d'attester que la pièce fait partie du puzzle divin. Jésus lui-même n'a pas cherché de consolation en dehors de la parole de Dieu. Il n'a pas cherché des normes différentes que celles que Dieu avait données depuis toujours. Oui, Jésus est venu accomplir l'ancienne alliance. Il en a établi une nouvelle. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament a été écrit pour nous le faire comprendre. Et comme le Nouveau Testament est maintenant terminé, cela signifie que je n'ai pas besoin de chercher des choses en plus ailleurs. Comme j'ai tout pleinement en Christ, j'ai aussi tout dans sa parole révélée, dont la rédaction est terminée. Et je peux le saisir, guidé par le Saint-Esprit. Qu'allons-nous donc retenir pour aujourd'hui ? Eh bien, en tant qu'Église réformée baptiste qui fête ses 20 ans, nous voulons nous rappeler que c'est en Christ que nous trouvons notre identité et notre place dans le corps de l'Église. Ça, j'espère qu'on l'a compris. Sinon, il faudrait que je le répète encore. Hein. Et deuxièmement, en tant qu'Église réformée baptiste, nous désirons vivre ce que Jésus a vécu en lien avec la parole de Dieu. Comme lui, nous la voyons sans erreur, préservée et autorité. Et il a promis que le Saint-Esprit transmettrait ce qui est à lui, à Jésus, ce qu'il a fait en faisant écrire le Nouveau Testament qui est complet depuis avant la fin du premier siècle. Il n'y a plus de rôle d'apôtre ou de prophète à rechercher, ni de don de guérison personnelle d'attestation d'une parole normative. Non, nous pouvons nous exhorter les uns les autres en nous basant sur la parole complète de Dieu qui est pleinement suffisante. Et si Dieu veut faire des miracles, il en fait quand il veut, comme il veut et où il veut. Donc si cette semaine, tu te questionnes sur un sujet sur lequel tu dois prendre une décision, eh bien cherche dans la parole de Dieu quel est le principe qui nous permettra de prendre une décision éclairée selon Christ qui vit en toi. Et Christ sera toujours d'accord avec la parole de Dieu. Et si tu n'as pas Christ qui vit en toi, sache que tu as aussi des références, mais qui bougent beaucoup, et des références qui nous guident loin de Christ, des références qui ne nous libèrent jamais de nos péchés et de nos fautes. Donc si Christ ne vit pas en toi, que tu n'es pas en Christ, tourne-toi vers lui, viens à lui, saisis sa grâce, afin de pouvoir cheminer, œuvrer, se réjouir dans sa parole, guidé par son esprit. Petite remarque terminale. Vous remarquerez, ça sera le principe dans toute la série de ces prédications, que je ne vais pas vous dire tout ce qui est faux dans d'autres églises. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de chercher qu'est-ce qui est vrai selon la parole de Dieu. Et que Dieu nous garde d'être humbles, parce que nous sommes faillibles, pas lui. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que il y a 20 ans, tu as choisi qu'une église se constitue ici. Quelle grâce. Et Seigneur, j'aimerais te dire merci aussi pour l'encouragement que nous avons pu recevoir d'autres frères et sœurs en Christ dans cette région. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour la joie de te voir à l'œuvre. Et nous te prions, Seigneur, de nous garder proches de toi. Nous te prions, Seigneur, de nous donner cette joie de t'aimer toujours plus, de comprendre pourquoi nous croyons certaines choses, et que ce pourquoi soit clairement lié à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous aimons, qui est notre référence, qui est notre tout, qui est notre roi, qui est notre Seigneur. Ô Seigneur, j'aimerais te louer pour ta bienveillance. J'aimerais te remercier pour tous ceux qui, autour de nous, ici à Neuchâtel et ailleurs, aiment ta parole. Donne-nous cette grâce de nous stimuler, de nous encourager les uns les autres à encore plus l'aimer, à la vivre, à ne pas avoir peur, d'affirmer qu'elle est la vérité, encore aujourd'hui, au XXIe siècle. Et Seigneur, nous te remercions parce que ta vérité ne change pas, c'est bon pour nous. Elle n'est ni nouvelle, ni ancienne. Elle est comme toi tu es. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.